Vous écoutez, on lit pour vous.
Faudra enfermer ce psychopathe. Un texte de Boukhard Diouf, paru le 25 mai 2024 dans La Presse. Robert Picton, un des plus grands psychopathes canadiens, est entre la vie et la mort, victime d'un autre sans-cœur qui purgeait aussi une peine à Port-Cartier. Sans en être le sujet principal, cet événement m'a donné envie de faire une chronique sur le caractère tout aussi psychopathe de l'humanité. Oui, nous sommes collectivement des tueurs en série. La preuve, en cette sixième extinction de masse en cours, partout sur la planète, les espèces disparaissent à cause des dérives consuméristes de l'humanité. Je reprends ici la thèse défendue par le neuroscientifique Sébastien Boller dans son bouquin intitulé « Human Psycho, comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète ». Mais je vous rassure avant de poursuivre, il n'accuse pas les humains individuellement, mais plutôt l'humanité en tant que super-organisme semblable à une colonie d'insectes sociaux. Dans une colonie de fourmis, d'abeilles, mellifères ou de termites, tous les individus proviennent de la même reine. Aussi, même si les membres de cette grande famille ont leur propre identité, ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux, un super-organisme. Nous devons cette dénomination à l'entomologiste américain William Morton Wheeler, qu'il a popularisé en 1911 pour décrire les colonies de fourmis. Dans un tel composite hiérarchisé, les individus sont unis par des liens génétiques, mais aussi par un système de communication et de partage très complexe. De la même façon, le réseau de communication qui unit les 8 milliards de personnes constitutives de notre super-organisme est hautement sophistiqué. À ces premiers liens, dit Boller, il faut ajouter les transports par voie maritime, terrestre et aérien. Des échanges qui favorisent un maillage économique administré par un nombre incommensurable de traités et de textes juridiques. Un système devenu si complexe et gigantesque qu'il échappe à un individu pris au hasard dans notre colonie. Ce super-organisme, dit l'auteur, est une entité aussi puissante qu'inconsciente qui creuse le gouffre dans lequel il s'engouffre. Nous sommes tous membres de cette entité psychopathique qui laisse beaucoup de cadavres sur son siège. Je précise encore. Ce que dit Sébastien Boller, c'est qu'individuellement, nous sommes très majoritairement des êtres empathiques. Mais lorsqu'on prend le super-organisme que représente la population mondiale, les critères de définition du psychopathe s'appliquent à l'humanité. Le psychisme des psychopathes, dit-il, est armé de quatre lance-flammes. Un égo démesuré, une incroyable aptitude à manipuler les autres, une absence totale d'empathie et une tendance à agir de façon instantanée et sans tenir compte des conséquences. Pas besoin d'être un spécialiste pour réaliser que, sans empathie pour une certaine biodiversité, l'humanité, à l'ego surdimensionné, est en train de décimer la biosphère en s'admirant dans le miroir. Ce qui, il faut le reconnaître, n'est pas très loin de ce que Robert Picton a fait à ses nombreuses victimes. Les humains ont hissé leurs sentiments au rang de culte et érigé une muraille entre eux et le reste de la création. Cet éloge de sa singularité dominante a permis à notre espèce de s'octroyer un droit de propriété sur le vivant avec la bénédiction des religions monothéistes. Pour comprendre pourquoi ce bipède croit que la planète lui appartient, il faut retourner au livre des psaumes où on parle de lui en ces termes. « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Si on analyse ce passage avec les yeux d'un biologiste de l'évolution, il dit grosso modo que la nature a fignolé la biodiversité pendant plus de 3,5 milliards d'années pour les seuls besoins et désirs de ce bipède qui aurait proche de 300 000 ans d'âge. Tout ça a été organisé en attendant l'arrivée du prince de la création. Pas surprenant alors que, dans un passage du discours de la méthode, Descartes salue cet homme nouveau qui sera aussi appelé à devenir maître et possesseur de la nature. Armé de cette puissante caution morale et de son empathie à géométrie variable, l'humain s'est attribué un droit de vie et de mort sur la biodiversité. Plus une espèce est loin de nous, phylogénétiquement, plus notre empathie s'éteint devant ses souffrances. Pas de pitié pour la flore qui végète et encore moins pour les dites mauvaises herbes. Quand l'humain parle de vermine, de bibite, de microbes, de cervelle d'oiseau, de tête de linotte ou de bête sauvage, le mépris n'est jamais loin. Cette génétique de déshumanisation qui nous autorise à massacrer une certaine biodiversité n'est pas loin de ce qui se passait dans le cerveau de Robert Picton. Les neurones miroirs de ce psychopathe ne s'allumaient pas pendant qu'il profanait les cadavres de ses victimes. La culture de l'autopromotion et de l'autogratification de l'espèce humaine, dit Boller, est des plus néfastes de la biosphère. Notre science, nos religions, notre philosophie et notre humanisme sont autant de lieux de célébration de ce nombrilisme délétère. Maintenant, comment empêcher l'humanité de tout détruire? La meilleure façon de protéger une population d'un psychopathe, dit l'auteur, c'est de l'enfermer. D'ailleurs, quelques semaines de réclusion forcée de l'humanité pendant la pandémie de COVID-19 ont suffi à montrer l'efficacité de la méthode sur le potentiel de guérison et de réparation des écosystèmes. Aux quatre coins du monde, pendant que les humains se sont enfermés, le ciel, les eaux et les animaux ont donné des signes d'espoir. Malheureusement, ce grand virage ne peut se faire sans entamer nos libertés et bousculer notre dépendance au confort et au consumérisme. Un des faits les plus marquants et plus certains de notre époque, dit Boller, c'est que nous vivons les dernières décennies des libertés individuelles. Quel que soit le cas de figure à venir, ce modèle civilisationnel va prendre fin, de gré ou de force. Soit les démocraties occidentales se cramponnent à cet idéal, auquel cas les humains continueront à consommer toujours plus et la planète deviendra inhabitable. On a beau fermer les yeux, les signes avant-coureurs de notre marche vers la destruction de la biosphère sont partout présents. Soit, comme on l'a fait avec Robert Picton, il est peut-être temps de confiner géographiquement, économiquement et démographiquement notre espèce qui est devenue son propre prédateur. C'était « Faudra enfermer ce psychopathe », un texte de Boukhard Diouf, paru le 25 mai 2024 dans La Presse.
S'écrire toute seule. Un poème de Marie d'Arcigny paru le 24 août 2023 dans le magazine Nouveau Projet. J'ai bien peur que le poème ne voie jamais le papier. Je ne trouverai pas les mots entre deux mailles déposées sur mes aiguilles. Le cliquetis métallique ne rythmera que ma nouvelle solitude. Calendar time versus body time. Le scénario est pourtant simple. Extérieur nuit et intérieur corps. Les gestes qui nous sont chers devraient être automatiques, et pourtant, s'il vous plaît, je vous en prie, j'aimerais seulement écrire. Ce n'est pas en tricotant que l'inspiration me viendra. Ce n'est pas en diluant toutes les saisons de 90 Day Fiancé sur ma rétine attentive dans le noir du salon que j'arriverai à organiser mes vers ou ma prose ou même une liste d'épicerie. Mes propres images ne sont pas claires. Je mélange mes souvenirs entre la honte et la culpabilité et le goût est toujours âcre. Moi qui adore les sucreries. Dommage. Je dis que je veux écrire, mais je ne sais pas vraiment si j'en ai envie. Ce n'est pas une histoire de volonté ou de désir, c'est une comptine qui souligne l'habitude, ce spasme récurrent alors que je ne sais plus si j'ai envie de partager. Peut-être que je veux garder pour moi mes salissures et mes éclaboussures, mes grands dégâts que j'ai déjà exploités comme des petites entreprises. Moi, CEO entrepreneuse born in 1986. Le poème ne verra pas le jour facilement. Mon anxiété existentielle s'ennuie de la désinhibition, du chaos, de la pause, de l'urgence qui dicte tout mouvement. Désolé, désolé, chanter, mettre un pied devant l'autre et recommencer. L'incapacité d'ordonner mes pensées sera toujours le caillou dans mon soulier. Imagine si on vivait dans le bois. Imagine les petits fruits et les compotes. Non, mais imagine nos marinades dans la fraîcheur de notre grange avec nos animaux et toute leur laine. Oh, leur laine, je la filerai, je la teindrai dans des grandes bassines. Je choisirai soigneusement les dégradés. Une couleur par souvenir désagréable. Mélangez tout ça, mes petites noyades malléables. Marie avait un petit mouton et absolument aucun désir de vendre ses tricots en boutique. Non, mes nœuds m'appartiennent et je continuerai à les organiser sans calendrier, sans recette, sans patron, sans mode d'emploi. Imagine, dans l'espace gaufré entre le coton ou le mohair, imagine qu'il y ait la naissance d'un tout petit poème. Le poème serait brièvement entre mes mains et demain il serait déjà loin. Je vous ferai signe quand il partira en tournée. Quelqu'un d'autre que moi pourra mercantiliser son talent. On pourra lui assigner une valeur et le vendre sur Ticketmaster, et je ne serai plus responsable de lui. La foule criera pour son apparition, un délire collectif pour les plus petites révélations. Tout le monde se tiendra la main pour acclamer ce poème qui montera sur scène pour dire « Je me suis écrit tout seul ». De mon côté, tranquille spectatrice aux fils emmêlés sur mes genoux, je cognerai mes baguettes l'une contre l'autre et je répondrai en criant « Solo ». Marie d'Arcigny est poète et essayiste. Son dernier récit, Encore, est paru au printemps 2023 aux éditions du Remue-Ménage. Son essai, Entre talons hauts et attitude butch, a été publié dans Nouveau Projet 15. C'était S'écrire toute seule, un poème de Marie d'Arcigny paru le 24 août 2023 dans le magazine Nouveau Projet.
La rentrée littéraire 2024, littérature québécoise, théâtre. Des propositions de lecture de Philippe Fortin, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Il se joue beaucoup de théâtre au Québec, comparativement au peu de textes dramaturgiques ayant le privilège de faire l'objet d'une publication. Toutefois, grâce à l'apport grandissant de maisons d'édition telles qu'Atelier 10 et Tamer, qui s'ajoutent à l'arrière-garde, cette situation semble heureusement vouée à se résorber. Dans tous les cas, on ne saurait trop vous enjoindre d'aller voir les pièces qui passent près de chez vous. Rebecca de Raspe, dramaturge cumulant plus de 10 ans de carrière et presque autant de pièces, publie « Fanny » chez Tamer, une pièce créée en 2021. Fanny et Dorian forment un vieux couple qui habite une grande maison et qui n'a pas à se plaindre. Pour déjouer la routine et la stabilité presque ennuyante de leur vie, ils décident de louer une chambre à une étudiante, Alice. Au contact de celle-ci, leurs valeurs et leurs certitudes se voient remises en question. Le choc est grand pour Fanny, qui, dès lors, essaie de comprendre cette jeunesse qui l'impressionne et la ravit. Guillaume Chapnick offre une exploration émouvante des relations masculines dans le cadre familial avec Chevchenko chez Atelier 10, qui met en scène une famille québécoise d'origine ukrainienne où trois frères se dévouent à leur père atteint d'une maladie neurodégénérative. Tandis que l'autonomie du père décline et que ses repères s'estompent, les souvenirs des instants de beauté et de liberté reviennent et se déploient. Un texte prenant sur l'approche aidance et la résilience des immigrants de deuxième et troisième génération. François Archambault et Gabrielle Chapdelaine dénoncent la toxicité d'un certain optimisme de pacotille avec « Faire le bien » chez Leméac, une pièce détaillant la lutte épuisante et souvent désopilante de ceux qui cherchent à bien faire à une époque où la bienveillance est devenue un impératif. Naviguant entre le drôle, l'âpre et le touchant, les scénettes soulignent les angles morts de nos interactions, là où la question cruciale du vivre ensemble se pose, aussi omniprésente qu'insoluble. C'était la rentrée littéraire 2024, littérature québécoise, théâtre. Des propositions de lecture de Philippe Fortin, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
Allonger la vie des fioles en pharmacie. Un texte de Valérie Simard, paru le 24 mai 2024 dans la presse. Alors qu'il est possible de remplir ses contenants de savon à lessive et ses pots d'épices dans de nombreux commerces offrant l'achat en vrac, une majorité de pharmacies refusent à leurs clients la réutilisation de leurs fioles de médicaments. Pourquoi? C'est la question que se pose Louise Lavallée, lectrice de la presse. J'ai déjà demandé à ma pharmacie de réutiliser mes flacons de pilules, mais on m'a dit que ce ne serait pas possible, que de plastique gaspillé. La pharmacie de Mme Lavallée n'est pas un cas d'exception. Selon un coup de sonde non scientifique réalisé par la presse et dont les résultats sont confirmés par plusieurs intervenants du milieu, une grande majorité de pharmacies n'accepte pas de réutiliser les fioles de médicaments. La pratique, qui avait gagné de nombreux adeptes avant la pandémie, a été freinée par les règles d'hygiène strictes qui ont dû être mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19. Depuis, beaucoup de pharmacies qui acceptaient de reprendre les fioles de manière informelle ont abandonné l'idée. Mais les enjeux vont bien au-delà de simples questions d'hygiène. Des raisons de sécurité, les fioles à l'épreuve des enfants sont homologuées pour un certain nombre d'ouvertures et de fermetures, et de logistique, plusieurs pharmacies demandent à leurs clients de les contacter à l'avance pour faire préparer leurs médicaments, sont notamment évoquées, de même que la présence de robots dans les laboratoires. Logistique complexe. Dans ces standards de pratique, l'Ordre des pharmaciens du Québec indique qu'un pharmacien doit s'assurer de la qualité et de la sécurité des soins prodigués à ses patients. Il recommande également que l'étiquette soit posée sur le flacon plutôt qu'à l'intérieur afin d'assurer une identification permanente de son contenu tout en étant plus hygiénique. Or, cela peut compliquer la logistique lors de la réutilisation des fioles. Selon ce standard de pratique, il se peut que certaines pharmacies soient incapables de garantir la propreté des flacons et ne puissent pas offrir ce service, explique Marie-Lie Beaulieu-Gravel, porte-parole de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Si certaines sont en mesure de le faire, c'est qu'elles se sont dotées de politiques et de procédures leur permettant de garantir la sécurité du service. C'est notamment le cas des deux pharmacies de Jean-Maurice Webel, situées à Montréal et affiliées à Family Prix. Après avoir suivi le programme d'accompagnement élaboré par Maillon Vert pour aider les pharmacies à réduire leur empreinte carbone, Jean-Maurice Webel a introduit plusieurs pratiques éco-responsables dans ses deux succursales montréalaises, notamment la réduction de la consommation énergétique, l'introduction du vrac pour les produits ménagers et la réutilisation de fioles. Pour respecter les critères de sécurité, le décompte du nombre de remplissages était indiqué sous le pot par un technicien jusqu'à ce que l'établissement choisisse des flacons étant homologués pour un nombre grandement supérieur d'utilisations. Lors de la mise en place de cette mesure en 2018, Jean-Maurice Webel estimait à 55 000 le nombre de flacons écoulés annuellement dans ses pharmacies. On avait mis beaucoup d'accent là-dessus, se souvient-il, et nos clients ont participé en grand nombre. Chaque jour, des gens nous apportaient leurs fioles vides, puis pendant la pandémie, on a dû arrêter de les reprendre. C'est dommage. Il y a environ un an, à la demande de patients, il a réintroduit la mesure. Mais de nouveaux venus avaient changé la donne. Comme plusieurs pharmaciens, M. Webel s'est doté de robots pour accélérer la préparation des médicaments. Dans une des succursales, c'est pas mal plus ardu maintenant de pouvoir récupérer les fioles à cause du robot qui les étiquette, expose-t-il. Il demande donc aux clients qui souhaitent que leurs flacons soient réutilisés de repasser les chercher le lendemain. Précisons que les pharmacies ne peuvent reprendre les fioles que pour un même client et seulement pour les médicaments qui ne sont pas considérés comme étant cytotoxiques, médicaments souvent utilisés pour détruire les cellules cancéreuses, ce qui représenterait un risque pour le personnel. Bref, pour mettre en place un tel protocole, il y a réellement des efforts supplémentaires à intégrer, observe le pharmacien Marc-André Maillot, fondateur de Maillon Vert, qui a accompagné plus de 120 pharmacies dans l'adoption de pratiques éco-responsables. Ce n'est pas aussi simple que de réutiliser un sac à l'épicerie. Notre message aux patients, c'est « Faites-en la demande », dit-il, « sensibilisez les pharmaciens ». Bien que plusieurs millions de fioles de médicaments, pour la plupart recyclables, soient utilisées chaque année au Québec, Marc-André Maillot relativise la quantité de plastique qu'elle représente par rapport à d'autres produits. En réduire l'utilisation fait néanmoins partie de la vingtaine d'actions proposées par Maillon Vert aux pharmacies qui souhaitent prendre le chemin de l'éco-responsabilité. Les fioles vertes. Après avoir été lui aussi freiné par la pandémie, le mouvement Fioles vertes, lancé en 2019 par la pharmacienne Sarah Fizazi, poursuit son déploiement. À ce jour, une trentaine de pharmacies au Québec proposent à leur clientèle de se procurer des fioles en verre qui peuvent être réutilisées après avoir été rigoureusement nettoyées. Autre nouvelle écolo. Le chiffre de la semaine, 23 000 kg. C'est le poids des piles et batteries récupérées dans 195 écoles québécoises du 16 août 2023 au 12 avril 2024, soit l'équivalent de deux autobus scolaires. Cette collecte a eu lieu dans le cadre d'un concours organisé par Environnement Jeunesse et Appel à recycler. Rappelons que les piles ne peuvent être mises à la poubelle ou au recyclage. Elles doivent être déposées dans un point de collecte. Feu vert, la palme d'or du tournage écolo. Lors du Festival de Cannes, l'organisme EcoProd à récompenser les films produits de la manière la plus éco-responsable possible. Le prix EcoProd a été remis ex aequo au roman de Jim, réalisé par Arnaud et Jean-Marie Larrieux, et à Maria de Jessica Palude. Nikki, de Céline Salette, a reçu le prix spécial du jury. Selon EcoProd, l'empreinte carbone moyenne d'un long métrage est de 188,7 tonnes CO2, soit l'équivalent d'une centaine d'allers-retours en avion entre Paris et New York. C'était « Allonger la vie des fioles en pharmacie », un texte de Valérie Simard, paru le 24 mai 2024 dans La Presse.
La rentrée littéraire 2024, littérature jeunesse, les inclassables. Des propositions de lecture de Vicky Sans Façon, parues le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Chaque rentrée littéraire propose son lot de petites pépites qui, par leur format ou leur thématique, ne rentrent dans aucune case prédéfinie. Les éditions de La Bagnole proposent une de ces licornes atypiques avec, après le bip, 10 messages laissés à qui veut bien les entendre. Ce collectif, sous la direction de Geneviève Morin, donne l'occasion à 10 écrivains et écrivaines d'écrire un monologue conçu comme un message laissé sur un répondeur. Que ce soit des récits intimes, des anecdotes hilarantes ou des tranches de vie bouleversantes, les nouvelles de ce recueil ont pour objectif de créer un rapprochement dans cette époque où la technologie tend à nous isoler. Un autre bijou indéfinissable est « L'histoire en vous » de l'autrice Ruta Sepetys chez Gallimard Jeunesse. Dans ce livre, entre guide d'écriture et journal personnel, l'autrice, qui est connue pour ses romans historiques ambitieux, basés sur des souvenirs familiaux, invite les apprentis écrivains à puiser dans leur vécu pour créer un récit percutant et intimiste. Conseils pratiques, outils et astuces en tout genre seront prodigués à tous ceux et celles qui ont une histoire à raconter. C'était la rentrée littéraire 2024, littérature jeunesse, les inclassables. Des propositions de lecture de Vicky Sans Façon, parues le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.